Je voudrais juste être heureux et bah pareil la paix dans le monde pas trop que ça finisse pas trop mal
Que ça commence pas trop mal, que ça continue pas trop mal et que ça finisse pas trop mal. D'accord.
Ah bah on est déjà
on prend aussi. On signe aussi pour ça. Louise Etienne, pour finir.
Bonne année à tous. Moi, bonne année, Louise. J'espère. Moi, j'ai pris la résolution d'être franche cette année. De pas
oh,
trop.
C'est étonnant de ta part.
Non, mais d'être plus franche encore.
Oula.
Et de. Ouais, je sais pas, de moins me prendre la tête qu'avant. Et
d'accord.
Voilà, d'être plus sereine. Paye Valou.
On finit par Tiedel.
Oui, j'ai.
Juste là avant encore... que Tiedel s'exprime, ah. Excuse-moi Tiedel, je voulais juste annoncer à tout le monde qu'en fait on a eu un petit problème technique, donc vous allez entendre l'émission qu'à partir de maintenant et qui n'a pas eu le début. Veuillez nous en excuser.
Tiedel, on t'écoute.
Tous. Oui, il y a. Donc.
On commence l'année presque comme on l'a fini, pas tout à fait, parce que ça s'était bien passé pour la dernière émission. On a parfois un petit peu un retard à l'allumage, hein, chers auditrices, chers auditeurs, je vais pas refaire tout ce que j'ai dit. Simplement, vous souhaitez une bonne année à toutes et à tous. Et on vous propose de revenir en direct. Cette fois-ci, on y est vraiment. On me confirme que oui. Donc, bonjour si vous nous rejoignez juste maintenant. Parfois, il y a un petit décalage aussi entre l'émission qu'on entend sur l'ordinateur, mais pas sur votre poste de radio et vice-versa. Alors, rebonjour à ceux qui étaient déjà là avec nous depuis 5 minutes et bonjour à tous les autres. On est en train de demander aux chroniqueuses et chroniqueurs, après avoir présenté notre invité spécial dans ce studio, Monsieur Barrel, principal adjoint de la cité scolaire, ce qu'ils ont pris comme résolution pour l'année 2017. Tiedel, on t'écoute.
Moi, j'ai pas pris de résolution en particulier, si ce n'est peut-être, je sais pas, oui, non. Non, d'être franc aussi comme Louise, c'est vrai que c'est une bonne résolution. Moi, je suis d'accord avec elle. J'ai aussi pris la résolution d'être d'accord avec Louise pour la
non.
N'emprunte pas les résolutions des autres.
Quelques fois en 2017. Donc, et puis sinon, de manière plus générale, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais comme Monsieur Barrel le disait tout à l'heure, alors vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais je suis aussi d'un naturel optimiste et je pense que tout va bien se passer, que l'année va bien commencer, se passer et se terminer.
Monsieur Barrel, alors peut-être parce qu'on ne vous a pas entendu, vous voulez peut-être rappeler ce que vous avez dit. Vous, on peut se permettre de vous demander quelles sont vos résolutions, peut-être pas à titre personnel, mais à titre professionnel. Et puis pour l'avenir du monde, des jeunes qui sont en face de nous, dans ce studio.
Alors mes résolutions personnelles, d'un point de vue professionnel, sont un peu égoïstes. C'est d'arriver d'être beaucoup plus efficace et donc d'optimiser mon temps au travail pour garder un peu du temps pour moi. Donc c'est un peu égoïste, mais c'est aussi pour l'établissement, parce que si je suis plus efficace, ça veut dire que je serai aussi plus disponible. Voilà.
Ça va ensemble, effectivement.
Et puis, d'un point de vue plus général, oui, je rejoins pas mal ce qui a été dit au niveau de l'humain, de la nécessité de vivre ensemble. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler encore plus aujourd'hui pour qu'on ne se retrouve pas dans des problématiques qu'on a pu connaître avec ces excès dans tous les sens.
D'accord, merci à vous. On va commencer par la première partie de cette émission, donc je vais rappeler le sommaire du coup, puisque a priori certains ne nous entendaient pas. On va d'abord parler de l'avenir du monde au sens large, de l'avenir de la France de manière un peu plus particulière, et on terminera par les envies de projection dans le futur lorsqu'ils auront 40 ans pour ce CCC numéro 40, cet anniversaire très particulier, 40 tours. L'avenir que voient pour eux-mêmes ces jeunes filles et ces jeunes gens qui sont dans ce studio. Tiedel et Louise, quand même, je pense que les autres sont d'accord avec moi. Ne soyez pas trop d'accord parce que ça va manquer de saveur. On vous connaît
depuis deux ans
maintenant. Assez jamais d'accord.
C'était juste pour la forme.
C'était
la
une boutade, c'était pour
oui,
la forme. Il me semble
veut faire de la politique, c'est pour la forme.
On est rassuré. On est rassuré. L'émission perdrait de son charme, vous le savez bien. Et de rythme. Alors, sur l'avenir du monde, c'est peut-être un peu large, mais est-ce qu'il y a des sujets qui vous semblent concerner, pas que la France, mais l'Europe, le monde, la planète entière? Je parlais d'environnement, mais ce n'est pas le seul. Les conflits, évidemment, le terrorisme. Est-ce que vous êtes plus optimiste? Vous avez un peu tous dit oui pour 2017, mais de façon plus large, est-ce que vous pensez que quand vous aurez 40 ans, donc ça fait à la louche, allez, d'ici une vingtaine d'années, un peu plus, ces soucis seront résolus? Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on sait que dans l'histoire, avec un grand H, il y a eu des périodes plus ou moins longues de conflits qui ont fini plus ou moins par se résorber, et parfois par se résorber, pour qu'il y en ait d'autres derrière, mais est-ce que ce type de terrorisme vous semble, à la Daesh, si je puis dire, si on peut appeler ça comme ça, sera résolu, réglé, ou qu'hélas on est parti pour de longues décennies encore? Louise.
Tout dépend des moyens qui sont mis en œuvre. Peut-être que peut-être qu'il y aura un progrès au niveau des moyens technologiques pour pouvoir peut-être prévoir des attentats, etc. Mais malheureusement, c'est leurs idées et je pense pas qu'elles puissent changer vraiment au point de se dire au final, si tout va bien aller, on va plus avoir d'attentats, etc. On voit bien que déjà au début 2017, on a eu des attentats au niveau de Bruxelles, non, de Berlin, pardon. Et même fin 2016 plutôt. Et du coup, c'est pas en train de s'arrêter, quoi. C'est pas en train de se résorber, malheureusement. Quand c'est même en train de s'accentuer.
Quand tu parles de moyens technologiques, tu penses aux renseignements notamment.
Oui,
c'est
aux
ça
renseignements, ouais, aux méthodes, je sais pas, peut-être.
Investigation.
Oui, peut-être des avancées d'Internet encore plus, etc. Je sais pas si c'est possible. Mm-hmm. Mais je vois pas tout en rose, moi, personnellement. Je pense pas que ça puisse s'améliorer comme ça, en claquant des doigts. Je suis pas sûre.
Donc, tu penses quand tu auras 40 ans, quand tu auras l'âge de la maturité? Hélas,
j'espère que ça sera
pas
atténué.
Forcément tout derrière nous.
Je suis pas sûre que ce soit totalement terminé ou déjà un monde en paix. J'espère que ce serait possible, mais je suis pas sûre que ça existe vraiment. Il y aura toujours des problèmes, malheureusement, et même si on peut peut-être les diminuer ou les atténuer un petit peu, mais il y en a toujours et il y a toujours des moyens de faire des conflits, même si on essaye de tout faire pour qu'il y ait un monde en paix.
D'accord. Quelqu'un d'autre s'exprimer là-dessus? Soit sur le terrorisme, soit sur l'environnement, dont on dit que c'est un sujet de préoccupation depuis longtemps déjà, pas toujours mis en application, mais on est en train de, notamment les cités scolaires du Diois. J'ai cru comprendre que ça va s'accélérer, notamment dans le développement durable et dans le tri du papier. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, Thiedel.
Oui, non, pour revenir sur le terrorisme... Moi, je pense effectivement que ça se résoudra pas du jour au lendemain. Ceci étant, ça tient quand même à relativement peu de choses, et donc, d'abord, bon, des terroristes, il y en a toujours eu, parce que avant Daesh, c'était peut-être dans d'autres parties du monde d'autres groupes. En France, c'était, je sais pas moi, les Corses, les Basques, bon, tout ça. Non, mais c'est vrai, tout ça, on n'entend plus parler. Et pourtant, ça fait peut-être pas si longtemps que ça. De la même manière, Al-Qaïda. On ne sait pas où ils sont passés, donc enfin, ou du moins ils existent peut-être encore, mais pas plus en Irak ni en Syrie.
C'est
donc
vrai. Ils ont trouvé hélas un rival de taille, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon,
oui, non, mais d'accord.
Daesh, mais oui, mais raison. Une variante, on va dire.
Donc moi, je pense que c'est pas possible de faire des prévisions à long terme. On ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que leur chef, comme ça s'est passé avec Al-Qaïda, sera tué? Est-ce que la guerre en Irak, qui apparemment est en train de tourner plutôt au profit de la coalition, enfin de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Est-ce que ça va se résorber rapidement?
C'est très compliqué de répondre à cette question-là. Mais toi, à titre personnel, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est quelque chose qui est une perspective toujours un peu la même quand tu seras adulte ou pas spécialement?
Je suis pas plus inquiet.
Est-ce que tu penses que tu vas devoir vivre avec, apprendre à vivre avec? On est déjà en train de le faire.
Oui, c'est possible, mais je sais pas pour combien de temps. Moi, je sais pas si on peut dire que dans 30 ans, on aura toujours à vivre avec. J'en sais rien, mais bon, c'est sûr qu'il y a des dangers qui changent, qui évoluent, et il faut s'adapter à ces risques. Donc maintenant, c'est le terrorisme. Demain, ce sera peut-être un autre. Mm-hmm. Hier, c'en était encore un autre.
Et Nola?
Non. Vas-y.
C'est Louise. C'est Louise.
Parle-moi. En fait, si tu veux finir.
Non, je voulais parler de l'écologie, donc vas-y, si tu veux.
Ok. Moi, je pense plutôt à la population dans le monde, qui va mm-hmm. encore augmenter. Mm-hmm. Et comment, du coup, on va... Oui.
Non. Et les exilés climatiques, ça sera une transition pour l'écologie, effectivement, il va y en avoir de plus en plus.
Et aussi, comment on va nourrir ces populations. Mm-hmm. On trouve la solution des insectes, aussi. De plus en plus, on se tourne vers ça. Ou aussi, la nourriture créée en laboratoire. Mm-hmm.
Tu nous fais de la science-fiction. Enfin, en même temps, c'est un peu l'objectif. Alors après, je me souviens quand j'avais votre âge, Monsieur Barrel aussi sans doute, qu'on annonçait pour l'an 2000, qui était l'année mythique, qu'on devait avoir plus que des pilules de différentes couleurs qui devaient remplacer les aliments, les légumes, les fruits.
Le bug informatique.
Pareil, l'hélicoptère personnel de chacun dans sa maison. Bon, quand même, il y a eu de gros progrès technologiques, mais ça pétait jusque-là. Tant mieux probablement pour les pilules à la place de la vraie viande et du vrai poisson. Je pense que là, on n'a pas perdu au change. Mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué d'anticiper ça. Oui, Alyosha.
Oui, je voudrais rebondir sur l'intervention d'Enola sur la population et en même temps sur le terrorisme. C'est vrai que, effectivement, ce que je vais dire est peut-être un peu méchant, mais c'est-à-dire que si les attentats se multiplient et que la population vient à grossir, est-ce qu'il n'y aura pas de plus en plus d'attentats parce qu'il y aura de plus en plus de gens pour adhérer à ce genre d'idées? Du coup, ça est-ce que ça pourrait mettre la planète en danger ou des trucs comme ça. Après, s'il y a de plus en plus d'attentats, il y a de plus en plus de morts, donc moins en moins de gens sur la Terre. Donc voilà.
C'est un raisonnement, Alyosha.
Là aussi. Non, mais
c'est sûr. Mais ça, c'est un peu le verre à moitié vide, je dirais. Parce que oui, s'il y a plus de gens, il y aura plus de gens pour résister aussi, peut-être, plutôt que pour adhérer aux idées.
Oui, c'est sûr, mais il y a toujours des personnes.
Plus de gens éduqués, pardon de t'interrompre. Oui. Et alors, ça fait pas tout, hélas, hein, on l'a vu, mais qui, quand même, ont une instruction, ont une éducation, qui apprennent à réfléchir, comme vous tous autour de la table, et qui donc évitent de tomber dans ces travers.
Oui,
et le mot est faible, que sont ce terrorisme absolument barbare.
Oui, mais là aussi, quand il y a une idée qui est née, c'est jamais impossible de la faire taire à tout jamais.
Ça, c'est sûr.
Il y aura toujours quelqu'un pour dire oui, j'ai envie de faire du terrorisme, j'ai envie de faire exploser les gens. Bon, bah voilà.
Il y a toujours des relents nazis et des petits nazillons, comme on dit encore aujourd'hui, en Allemagne, en France, non, mais bien sûr, et ailleurs, en Europe, hélas, bien sûr. Oui, Louise.
Après, s'il y a de plus en plus d'attentats, si on pouvait malheureusement le penser, c'est une des hypothèses possibles. Il y aurait aussi, ça rentrerait dans les manuels d'histoire, par exemple, ou dans n'importe quelle forme pour apprendre aux jeunes, enfin bref, à tout le monde, et que justement on puisse être plus éduqué, comme vous disiez, pour pouvoir plus facilement lutter et pas y adhérer, comme disait Alyosha. Peut-être que si on faisait rentrer ça dans l'histoire, parce que malheureusement ça y rentrera, les attentats, tout ce qu'il y a eu au niveau de Daesh, etc.
Ça y est déjà, ça c'est
oui,
sûr.
Ça y est déjà, mais on n'en parle pas. Moi je trouve qu'on n'en parle presque pas au lycée ou même dans les cours, on n'aborde pas le sujet.
On a parlé peut-être un peu
en
après,
d'actualité.
Comme toujours, quand ça
c'est
s'est
ça,
passé.
C'est ça, quand ça s'est passé, mais dans, par exemple, un chapitre d'histoire ou quoi qui pourrait être dédié, bon, c'est récent quand même.
Donc, c'est le principe de l'enseignement de l'histoire, il faut avoir un certain recul.
Mais je pense que dans quelques années, ce sera un chapitre, quoi. Et ce serait bien de l'étudier.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on doit pouvoir enseigner l'histoire contemporaine, l'histoire en direct? On est obligé parce qu'il y a des choses graves qui se passent en soi. Mais...
C'est des sujets qui pourraient être abordés en éducation morale et civique, puisque dans cet espace, il y a possibilité de parler de l'actualité, je pense, à travers des débats. Et pour par rapport à ce que disaient les jeunes, là, vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être limiter ces phénomènes s'il y avait un peu plus de répartition de l'éducation, des richesses, de la nourriture à travers notre globe ?
De lutter contre les histoires de terrorisme avec ça ? Je vois pas le rapport.
Louise a l'air sceptique.
Oui, je comprends pas.
Chadel.
Non, c'est vrai, tout à l'heure j'ai dit on sait pas quand ce sera terminé tout ça. Effectivement, en termes de nombre d'années, on sait pas quand ce sera définitivement terminé, ce sera peut-être jamais. Par contre, on peut donner un contexte pour quand ce sera terminé. Quand ce sera terminé, ce sera quand on aura pris des solutions à la fois à court terme et aussi à moyen et long terme. Effectivement, moyen et long terme, ça veut dire que on se contente pas d'aller zigouiller effectivement les terroristes. Bon, ce qui est évidemment important aussi, parce que bon, évidemment, il faut les battre. Dans le cadre d'une guerre, évidemment, il faut les empêcher de
les vaincre,
de nuire.
Il faut les vaincre. Bon, mais
il faut les battre.
Oui, pas les battre. Oui, non, mais les battre militairement, voilà. Donc, mais et puis aussi à moyen terme, quand effectivement ce sera la situation au Moyen-Orient sera stabilisée, peut-être à long terme, quand aussi il y aura eu des mesures d'éducation qui seront prises, parce que c'est peut-être pas très normal que des jeunes Français de notre âge partent faire le djihad, des femmes, des jeunes. Bon, c'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Donc, quand on se sera aussi attaqué aux sources profondes, c'est là qu'on va pouvoir vraiment éviter que ce soit l'hydre de Lerne, parce que si on prend que des solutions à court terme, certes c'est bien, mais le problème c'est que ça va tout le temps recommencer si on s'attaque pas à la source. Donc effectivement, je pense que c'est important.
Louise.
Et puis aussi, s'intéresser aux faits vraiment quantitatifs des attentats qui se sont déroulés au niveau du nombre de morts, de tout ce qui est en extérieur, mais s'intéresser aussi à la sociologie, par exemple. Comme disait Tiedel, de se demander pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui partent faire le djihad, comment c'est possible qu'on en soit arrivé là, qu'il y ait des personnes qui veulent aller adhérer à une doctrine. Bon, c'est possible qu'ils pensent ça, il y a une liberté d'expression, je suis d'accord, mais il faudrait vraiment...
On a la liberté d'expression, hein,
oui.
Parce que...
Bah, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Après,
le terrorisme, c'est pas au nom de la liberté d'expression.
Non, mais oui, mais les pensées...
Surtout que leur argument principal, c'est pour empêcher les autres de penser, de vivre comme ils le veulent dans les démocraties et
oui, non,
et
mais je veux dire,
leur droit d'expression, justement.
Le fait qu'ils décident de penser, d'adhérer à ces pensées de terrorisme, etc., c'est leur droit. Malheureusement, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. on peut pas les empêcher
de penser quelque chose à quelqu'un, voilà. C'est très compliqué, c'est sûr. Oui, c'est même ça. Si on le disait tout à l'heure, l'éducation, ça peut aider, mais c'est assez frappant de voir qu'il y a parfois, même souvent, dans la plupart des djihadistes, des jeunes gens qui sont allés à l'école, comme vous, jusqu'au lycée, qui...
Oui, bah d'accord,
en quoi c'est pas une garantie.
Bah justement, mais... en quoi il faut changer.
Oui, oui, c'est bien le problème.
Voilà,
mais bah, mais oui. c'est super difficile à trouver ce qu'il faut changer.
Bah évidemment, il faut s'y mettre maintenant. non, mais c'est vrai. C'est aussi, puis c'est aussi une ambiance dans la société, qu'elle soit française ou dans la société en général, parce que quand on est dans une espèce d'atmosphère violente comme on l'est en ce moment, où tout le monde se tape est presque prêt à se taper dessus pour un rien, que ce soit le terrorisme ou autre chose. D'ailleurs, on est quand même en permanence dans des échanges qui sont violents. On n'est pas capable de s'intéresser à des problèmes avec la tête froide, de manière posée. Donc c'est aussi une ambiance générale qui est dans
la tension,
qu'il faut changer. Oui, voilà.
Alyosha.
Oui, moi je voulais dire que c'est peut-être bien de changer l'éducation pour apprendre aux jeunes gens de ne pas adhérer à ce genre d'idées parce que c'est mal, mais les jeunes gens, et nous surtout en général, on n'a pas seulement l'éducation de l'école, on a aussi l'éducation de nos parents. Donc, même si aujourd'hui on a une nouvelle réforme avec un nouveau système d'éducation qui nous dit ne pas penser comme des terroristes, certains parents peut-être qui ont ces idées-là, là je dis pas pour nous mais pour les djihadistes, peut-être les parents ne seront pas d'accord et enseigneront à leurs enfants ce genre d'idées.
Tu sais, Alyosha, que la plupart du temps, c'est pas les parents qui tombent des nues et qui ne donnent pas ce type d'éducation du tout. C'est Internet, beaucoup, c'est les réseaux. Ça commence souvent par Internet.
C'est l'idée qu'on s'en fait.
Et ensuite par des rencontres. Parfois, il suffit d'un seul homme et d'une mauvaise rencontre. Je crois qu'à 90% des cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quelqu'un qui vous fait miroiter des choses, vous fait passer pour un héros si vous agissez dans ce sens-là.
Oui, qui rentre dans une brèche de mal-être peut-être de quelqu'un.
Et ça va très vite, parce que parfois c'est en quelques semaines, quelques mois. C'est ça qui est terrifiant.
Bien sûr.
Et ce aussi dans un contexte où sur Internet, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à des théories complotistes, un petit peu abracadabrante. Et quand on est dans ce terreau-là, quand on n'a rien d'autre à faire que de regarder ça, et qu'on est dans ce terreau-là tout le temps, de gens qui sont d'ailleurs souvent des amis de Madame Le Pen, enfin quand on voit Dieudonné, non mais c'est vrai, Éric Zemmour, rien que des gens comme ça, des théories comme ça, de ce genre-là.
On va peut-être pas faire retomber la responsabilité du théorème sur Madame Le Pen, ce serait un peu un raccourci.
Mais évidemment, bon. Non mais c'est pour dire, non mais c'est pour dire que ce sont des agitateurs, ces gens-là, et que ça met en place une espèce de terreau qui est favorable c'est-à-dire qu'une fois qu'on croit à des théories complètement abracadabrantes du complot, etc., selon lequel, je sais pas moi, François Hollande est un agent de la CIA ou quoi, on est prêt, non mais après on est plus disposé à adhérer à ce genre de théorie, comme quoi il faut faire sauter tout le monde, etc.
On parle un peu d'environnement peut-être, puisque donc on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est une préoccupation qui est plus celle des jeunes de votre âge, et que les gens plus âgés s'en contrefichent un peu ou se sentent moins concernés parce qu'ils sont moins nés avec ça, ou est-ce que c'est pas du tout une affaire de génération? Est-ce que vous sentez davantage des moteurs par rapport aux adultes, ou aux grands adultes, vos aînés et vos grands aînés, ou pas spécialement? Enola?
Dépassé par ça, enfin, ils se disent, enfin, ils essaient de nous apprendre l'environnement, à protéger la planète et tout, parce que ils savent que c'est nous qui allons tout nous prendre sur la tête.
Qui les paye la dette.
Voilà. Donc,
il n'est pas encore trop tard, faut être optimiste. On est optimiste en début d'émission.
Ils essayent encore, mais c'est surtout nous qui allons changer les choses, je pense.
Tu veux dire que ceux qui vous expliquent sont un peu ceux qui sont en partie responsables davantage que vous de l'état dans... C'est un peu vrai.
C'est un peu vrai.
Parce qu'on a négligé jusque-là probablement certainement la planète. Et voilà, maintenant, forcément, le rôle des adultes est d'enseigner aux plus jeunes, qui eux sont par définition un peu moins responsables, en tout cas chronologiquement et en nombre d'années où vous êtes sur la Terre. Et puis vous êtes né, Alyosha.
Oui, moi j'ai vu un article qui donc racontait des théories de deux savants, je me souviens plus de leur nom, mais qui disaient que même si on prenait des mesures drastiques pour euh, pour faire que la pollution s'arrête, etc. Ben, la Terre, elle est déjà dans son déclin. Donc, même si on s'assurait que la pollution soit réduite, même de 90% ou plus, on n'empêcherait pas une fonte majeure des glaces ou des trucs comme ça. Et du coup, il y aurait des tsunamis, tremblements de terre, etc.
Donc pour toi c'est déjà trop tard en fait.
Peut-être.
En tout cas,
après est-ce que ces théories sont fausses et que finalement même si on arrive à réduire la pollution, on arrive à se stabiliser.
Parce qu'il y en a d'autres qui disent l'inverse aussi. Oui. Après il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que c'est pas la France seule, c'est pas l'Europe seule, le problème des États-Unis, de la Chine, des pays qui sont en voie d'industrialisation et qui se développent très vite et qui évidemment polluent parce que usines, parce que c'est ça aussi la complexité.
Mais en même temps des réunions comme la COP21,
la fameuse COP21
comme ça. Qui ont pris des décisions, mais même pas de décisions, ce que j'ai entendu dire. Si c'est pour faire des réunions, pour dire voilà, on va prendre une décision, et puis finalement.
Il y a quand même eu un accord international, notamment sur
les
2 degrés, je crois, c'est ça.
Les 2 degrés. Oui.
Qui est objectif à atteindre. Alors après, objectif à atteindre, qui sera atteint. Mais c'est déjà un objectif assez consensuel. Même si États-Unis et Chine sont un peu plus timides, on va dire, entre autres, que l'Europe, notamment.
Ils sont d'accord pour faire baisser la température et tout ça, mais pour faire des actions concrètes, il n'y a plus personne.
Bah, réussir à baisser une température, tu vas bien devoir faire des actions concrètes, du coup. Sinon, elle ne va pas pouvoir baisser toute seule.
C'est
comme
sûr,
ça.
Mais bon.
Ils se sont engagés pour. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est peut-être pas possible de tout faire baisser d'un coup, mais ils se sont engagés pour ça, donc ils vont essayer de faire des actions concrètes, que ce soit rapidement ou pas, espérons-le.
Monsieur Barrett, vous êtes plus optimiste qu'Alyosha ou...
disons
plus
que
du côté de Louise, qui semble être plus optimiste.
Ce qui est venu dans l'intervention, c'est que finalement, c'est se dédouaner, c'est-à-dire même si on fait rien, même si on fait quelque chose, il se passera rien. Mmh. Si on fait rien, il se passera rien. Finalement, on peut continuer comme ça et droit dans le mur. Non, on me rappelle toujours une citation de Voltaire chaque flocon n'a pas conscience d'appartenir à l'avalanche qu'il déclenche.
C'est joli. Je ne connaissais pas cette phrase de Voltaire.
Pour un prof de français.
J'en intéressais à la goutte d'eau, moi, pardon. Bah, le prof de français, Mme Louise, on intéressait à la goutte d'eau qui fait déborder le... ou la petite brique. Je ne connaissais pas la phrase de Voltaire. Bon, vous voyez, Louise n'a pas changé. Elle avait promis qu'elle changerait. Souvenez-vous, dès le début de cette émission avec Yadel, mais avec moi,
mais
elle est
toujours
pareil.
J'ai changé, je suis plus franche encore.
Si, c'est vrai, c'était ta promesse, effectivement, t'as résolu. Donc ça, c'est fait, c'est engagé. Pour le climat, je ne sais pas, mais pour la franchise de Louise, on a gagné. Marius. Puis après, peut-être qu'on passera au deuxième point sur la France, l'emploi, le chômage, etc., etc. Mais on va d'abord écouter Marius et peut-être Yadel pour finir.
Moi, je pense que la Terre est là depuis 6 milliards d'années ou plus, 5 milliards d'années.
On n'est pas un milliard près.
J'étais pas là au début. Voilà.
Nous non plus, on n'était pas là il y a 6 milliards d'années, je te confirme.
La Terre était là et là depuis 5 milliards d'années. Je pense... c'est pas le sort de la Terre qui est en jeu, mais plutôt de nous, quoi. C'est, enfin.
Bah, l'un va avec l'autre, hein, c'est pas.
L'un va avec l'autre, mais par contre, si on meurt, la Terre, elle peut très bien vivre
elle
sans
pas
nous.
Exploser pour autant.
Bon, s'il y a une troisième, guerre mondiale, elle peut.
Oui,
on sait jamais.
D'accord.
Hein.
Enfin... Heureusement qu'on a pris des résolutions positives en début d'émission. On a la troisième guerre mondiale maintenant.
Non, je voulais du coup revenir sur ce que disait Alyosha tout à l'heure sur la supposée inefficacité de la COP21. Moi, je suis désolé, mais avec des conférences comme ça, il y a quand même une prise de conscience. Et c'est important déjà de réunir tous les acteurs autour d'une table et de dire voilà, on va réfléchir au problème et on va commencer à envisager des solutions. Déjà, c'est un bon début. On va pas commencer. On s'en était presque jamais préoccupé avant. On va pas commencer par prendre des mesures drastiques tout de suite maintenant, même si c'est un peu tard. Tant pis. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? On pouvait pas, si tu veux, tu peux pas forcer toutes les entreprises des États-Unis, de Chine et de partout à suivre des règles tout à coup alors qu'elles n'en ont jamais eu. Donc, ce qui est important, c'est d'abord qu'il y a eu cette prise de conscience et qu'il y a vraiment eu lieu, parce que quand on voit aux États-Unis Monsieur Trump qui voulait sortir des accords de la COP21, ce sont des entreprises américaines, 500 entreprises qui ont signé, qui lui ont dit non, on veut que les États-Unis restent dans ces accords parce que pour nous c'est important. Ça correspond à un modèle, à un business model pour eux, parce que il faut Il y a aussi un côté marketing là-dedans, etc. Mais bon, après tout, si les résultats sont là, qu'importe. Donc, je veux dire, pour moi, ça montre bien que les entreprises, pour elles, c'était pas des paroles en l'air. C'était vraiment des choses qu'elles commençaient à appliquer éventuellement. Puis il y a des secteurs de la croissance qui sont aujourd'hui aux États-Unis, voilà, des panneaux solaires, qui représentent vraiment des sommes importantes, quoi.
Des solutions, des sommes importantes. Les restrictions de circulation à Paris, à Grenoble aussi, puisque c'est pas très loin d'ici, il y a de gros soucis à Grenoble aussi depuis longtemps, ça vous paraît utile, le gadget,
oui.
Les plaques paires et impaires, puisque c'est ce qui se passe en ce moment.
Ouais. Faudrait peut-être trouver une meilleure solution que la circulation alternée, parce que c'est pas très... Bon, mais effectivement, c'est important que des mesures soient prises dans ces cas-là, qu'il y ait une urgence effectivement pour la pollution, parce que c'est un problème de santé publique aussi. Donc bon, voilà.
Mais c'est toujours d'actualité maintenant là ? Ou ça s'est passé juste une période de deux
hier
deux
à Grenoble
et...
à nouveau ou
à Grenoble
à Paris,
de nouveau et à Paris, je crois que ça s'était arrêté jusqu'au prochain épisode.
Je sais plus.
Non, mais du coup, ils doivent les faire juste après les pics de pollution.
Oui, voilà, c'est ça.
Faut prévenir.
C'est parfois un peu en décalage, c'est ça le problème.
Bah oui, voilà.
Ce serait plus utile.
Et puis bon, c'est vrai que ça sert beaucoup. En plus, c'est pas appliqué parce qu'à Paris, les policiers n'étant pas contents, etc., ils ont dit, ben puisque c'est comme ça, on va pas mettre de PV parce que non, mais en raison de leur propre mécontentement contre le ministre de l'Intérieur, etc. Bon.
Et puis les commerçants n'étaient pas contents parce que les gens voilà, plus donc, en voiture bon, avec leur lourd sac et à pied, c'était compliqué.
Oui, donc
c'est difficile de contenter tout le monde.
Je pense que c'est oui, non mais c'est pas la question que personne soit contenté, mais je pense que ça sert à faire beaucoup d'histoires parce que comme c'était pas appliqué par les policiers qui par protestation contre je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais quand, du coup je vois pas l'intérêt enfin.
Alyosha, on termine vraiment avec toi et Louise éventuellement d'un dernier mot et on passe au deuxième point sur la France. Okay.
Moi, par contre, il y a une bonne résolution, si je puis dire, des commerçants. Là encore, c'est qu'il y a eu une réforme, si j'ai bien compris, c'est une réforme sur les sacs en plastique. C'est-à-dire que les commerçants n'ont plus le droit d'utiliser des sacs en plastique.
Depuis le 1er janvier.
Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne solution, d'autant que ça va limiter la pollution et aussi pour les morts d'espèces marines, puisque beaucoup de sacs plastiques se retrouvent dans la mer et étouffent des tortues ou des trucs comme ça qui les confondent avec des méduses. Voilà. Et ça, c'est vraiment un bon truc, d'autant que les sacs en papier, c'est réutilisable.
Je suis allé chez mon boucher hier, pour la première fois, il m'a donné un sac en carton. Effectivement, je peux témoigner. Oh, certains avaient anticipé et ont déjà commencé depuis un certain temps, mais jusqu'au 31 décembre, ils pouvaient encore donner des sacs en plastique, dont certains étaient recyclables quand même, hein, ils le sont toujours. Oui.
J'espère qu'il n'y avait pas qu'un sac en carton. Qu'il y avait...
Il y avait des choses à l'intérieur. Oui. Mais on a dit la vie privée, c'était la troisième phase de l'émission. Pardon, pour l'instant, on est à la vie du monde. Merci pour ton intervention, Tiedel. Louise, un dernier mot vraiment très court.
Non, c'est bon, il a fait une petite.
Alors, j'ai envie pour faire la transition de reposer la même question que tout à l'heure sur le monde de l'écologie, le terrorisme. Par rapport à la France, est-ce qu'il vous semble que quand vous aurez 40 ans, le plein emploi, ça sera toujours un sujet, mais pas une réalité, et que le chômage sera toujours une réalité, avec des pourcentages plus ou moins régulés, mais plutôt moins que plus ? Ou est-ce que vous êtes optimiste et vous pensez que certains politiques vont trouver des solutions en pleine année présidentielle, évidemment ? Louise, allez, encore.
Je vais dire un peu la même chose que tout à l'heure, c'est pareil, c'est difficile de l'imaginer parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir des... Peut-être que ça va être très positif, il va y avoir beaucoup de moyens qui vont être mis en place, des emplois créés, des postes, peut-être de nouveaux emplois tout simplement, ou je ne sais pas, pour faire baisser le chômage et peut-être même pour l'éliminer tout complètement, mais ça je pense que ce n'est pas possible. Je ne sais pas, il faut prendre en compte plein d'éléments et... C'est assez dur de répondre à cette question. Parce que
ça existe dans d'autres pays d'Europe quand même. Hein, alors, le plein emploi, ça ne veut pas dire 0% de chômeurs, ça n'existe pas, mais un taux très faible. Ça revient à ce qu'on appelle le plein emploi.
C'est idéaliste quand même.
L'Allemagne se débrouille mieux que nous, alors c'est toujours l'exemple qu'on donne, mais il y a d'autres pays du nord de l'Europe notamment. Donc, ça semble possible ailleurs. Pourquoi ce n'est pas possible en France ? Bon, c'est un vaste sujet que je vous propose là. On ne va pas résoudre
vous
tout là
heures.
Maintenant. Vous avez 4 heures, on a un peu moins.
Oui, non, moi je sais pas, je suis pas compétent pour dire pourquoi ni comment c'est pas possible en France. Par contre, bon, effectivement, le chômage a plutôt baissé l'année dernière, ce qui est positif, très positif même. Mais maintenant, est-ce que il y a qu'un problème par rapport alors évidemment il y a un problème de formation, mais est-ce qu'il y a qu'un problème par rapport aux formations ou est-ce qu'il y a aussi un problème de mobilité, moi j'envisagerais j'envisagerais ça à un niveau européen, se dire est-ce que finalement le jour où j'arrive pas à trouver un emploi dans tel secteur en France, pourquoi j'irais pas après tout dans un autre pays où il y en a dans ce secteur. Voilà,
il y a beaucoup de jeunes qui vont travailler, de plus en plus qui quittent la France pour aller travailler à l'étranger.
Parce que quand on voit les États-Unis, il y a pas d'emploi dans le Michigan, bah les gens vont au Texas ou en Californie. Mmh. Si tant est qu'il y en ait plus en Californie, bon évidemment s'il y en a nulle part.
Toi tu te vois travailler à l'étranger ou ce que tu envisages,
oui.
Qui te paraît naturel désormais.
Oui.
Possible en tout cas.
Non, moi, ça me. Et puis, c'est vrai qu'il y a un souci de mobilité, parce que tout de suite, dès qu'une usine va fermer, quand on propose une relocalisation à 100 km, ah, c'est pas possible, etc. Bon, ce qui se comprend quelque part, parce que les gens ont une famille, une maison, etc. Bon, mais d'un autre côté, dans d'autres pays, ça se fait. Et puis, d'autre part, évidemment, il y a aussi peut-être un problème qu'on ne soit pas formé aux emplois. Qui se crée, mais c'est peut-être pas tant un problème d'emploi en général, mais un problème de aussi quels emplois, parce que, je veux dire, si moi je me prépare à travailler dans un secteur où il y a de l'emploi qui se crée, qui est en plein boom, je veux dire, j'ai pas de souci à me faire, quoi. Enfin,
il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, je trouve, c'est que quand on voyage un peu, partout à l'étranger, quand on parle de la France, les gens ont les yeux qui brillent, ah, c'est un grand pays, la liberté, c'est les écrivains, on parlait de Voltaire et M. Barrel tout à l'heure, et beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler en France, et vont en Angleterre, en Australie, aux États-Unis et sont très bien payés, et bien mieux payés que s'ils étaient restés ici. Et beaucoup ne veulent pas revenir, d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est des dizaines de milliers, mais ce n'est pas négligeable en nombre.
Oui.
Donc c'est curieux, quand même, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on est un pays qui fait briller les yeux, et vu de l'intérieur, les gens s'en vont. Je caricature peut-être un peu, mais c'est un peu un paradoxe là-dedans. Louise ?
Après, c'est peut-être pas... peut-être que vous dites, ils ont leurs yeux qui brillent, etc. C'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être qu'ils vont pas se dire « Ah, trop bien, je pourrais y travailler. » Peut-être que c'est au niveau du tourisme, au niveau de, je sais pas, des paysages qu'on a en France.
Aussi, mais pas que. Je pense que c'est aussi une histoire de valeur. Bon, le mot vous tout dit rien dire, mais de modèle, de « Ah, la France... » voilà, la mode, l'art de vivre, les paysages aussi, tu as raison. Mmh. Je crois que c'est plus large que ça. Tiedel et puis Alyosha.
Oui, après, c'est vrai que du coup, c'est pas tant la question de l'emploi qui attire en France. Par contre, c'est vrai que quand on voit aussi que d'un côté, il y en a qui partent, d'un autre côté, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour travailler pour Airbus à Toulouse, pour Alstom, depuis que ça a été racheté, bref, je sais pas s'il y en a autant que ça, mais en tout cas, voilà, donc il y a aussi, ça attire aussi. Et puis, il y a plein de start-up, il y a plein de. D'entreprises qui se créent dans on en parlait tout à l'heure le développement durable, oui voilà, l'environnement, donc du coup voilà, c'est aussi les bons secteurs, être capable de matcher les bonnes personnes avec les bons secteurs, former, etc. Et c'est ça qui est probablement plus performant dans certains pays aussi.
Monsieur Barrel, c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé d'aller travailler à l'étranger ou pas spécialement?
Ah non,
dans ce domaine là ou dans un
non,
autre
non, moi non. Je suis... non
vous êtes bien en France.
Oui, très bien ici. Non, par contre, je voulais rebondir un petit peu sur le fait des jeunes qui partent à l'étranger. On parlait des États-Unis en particulier. Les États-Unis ont quand même une spécialité, c'est de piquer toutes les bonnes têtes de tous les autres pays en ne les formant pas et en capitalisant en fait les formations des autres. Oui. Donc ça aussi, c'est facile. Après, on a quand même... un peu tendance peut-être, c'est un peu franco-français, à voir les choses plutôt du mauvais côté, le vide à moitié plein alors qu'il est finalement, à moitié vide plutôt, alors qu'il est aussi à moitié plein, oui. Et qu'il y a quand même des secteurs très en pointe et très performants. On prend la médecine, on prend les technologies du numérique, les technologies du cinéma,
alors comment ça se fait qu'on les garde pas?
On les garde, on nous les pique, mais on nous les pique pas tant que ça.
Il y en a un certain nombre qui s'en vont quand même. Bon, j'ai pas le nombre en tête, je peux pas les vérifier récemment, mais c'est
vrai que de plus en plus. Je suis pas persuadé qu'il y ait tant que ça.
Ça m'étonnerait que la médecine.
Disons qu'après, il y a probablement des choix politiques à faire au niveau du maintien d'une activité industrielle au sein de notre pays. Donc là, l'Allemagne a fait des choix beaucoup plus forts par rapport à ça. On parlait de l'Allemagne. Voilà. Et aussi par rapport à l'Allemagne, il y a un plein emploi. Il faut voir aussi la qualité du plein emploi. Quel niveau on a du plein emploi? Si on doit faire 60 heures pour avoir un niveau de rémunération qui équivaut à notre SMIG chez nous, à 35 heures, ils ont plein emploi, d'accord.
Et puis chez les Britanniques, mais c'est pas mal non plus, parce qu'effectivement, ils travaillent tout le temps, mais ils changent souvent d'emploi.
Voilà.
Le licenciement est plus facile aussi.
Oui. Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, moi je pense que c'est tout à fait vrai qu'il y a des choix à faire au niveau des choix politiques importants pour privilégier la recherche dans ces secteurs, que l'État puisse permettre aux entreprises effectivement qui sont des entreprises de haute technologie qui donc ne vont pas se délocaliser en Chine parce que bon ça n'a pas d'intérêt pour une entreprise qui fait de la médecine de se délocaliser en Chine parce que c'est vrai que la France a des atouts, c'est attractif de venir travailler en France en termes de sécurité de l'emploi, en termes de cadre de vie aussi, ça compte pour des cadres et des ingénieurs qui sont et même de formation. Mais c'est vrai que ça, ce sont des atouts qu'il faut mettre en valeur. Puis il faut aussi peut-être insister sur effectivement le côté recherche, que l'État puisse financer de la recherche utilisable après par les entreprises, parce que c'est important.
On peut avoir quelques inquiétudes, parce que justement l'État français se désengage un peu de la recherche.
Mmh. Oui, voilà.
Oui, les budgets sont souvent fluctuants en fonction des gouvernements. D'un gouvernement à l'autre, c'est pas toujours très régulier. C'est peut-être ça qui manque aussi, la régularité de manière générale d'ailleurs, dans les différentes stratégies politiques au sens large en matière d'économie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup de la part des entrepreneurs qui disent qu'il n'y a pas de visibilité. Oui. Pour les impôts, ça change tout le temps, quel que soit les gouvernements. Voilà, tous les 5 ans, en gros, on remet les compteurs à zéro et ça empêche d'avoir des perspectives. Vous êtes plus optimiste, plus pessimiste, vous les trouvez réalistes ou pas que nos lycéennes et nos lycéens? N'hésitez pas à nous appeler. Car il se fait tard, 0952 368 531, nous sommes en direct encore pour un petit quart d'heure, 0952 368 531, n'hésitez pas, le standard est ouvert, c'est Alexandre et Liam qui vous répondent, et puis évidemment de suite vous passez à l'antenne sans souci, et vous pouvez dialoguer avec l'une ou l'un d'entre nous, n'hésitez pas, enfin d'entre eux surtout. Moi, je ne suis que le passeur, et c'est avec Lysane Alissin ou Monsieur Barrel. Si vous voulez poser des questions sur le métier de principal adjoint, toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser, n'hésitez pas, il est là pour y répondre pour encore une dizaine de minutes. Comment on choisit de devenir principal d'un établissement? Ça vous intéresse peut-être, donc n'hésitez pas, profitez-en, on ne sera pas là toutes les fois. Donc 0952 368 530, enfin, il est invité à chaque fois s'il le veut, mais on ne va pas l'obliger à venir à chaque fois à l'inverse. Marius.
Eh bien, moi, je pense que la France a de grands atouts pour le futur. Je suis vraiment très, très, très optimiste. Je pense même que la prochaine révolution industrielle sera pour la France, ce qui créera le plein emploi. Et non, je suis très optimiste.
En fait, tu remplaces l'auditeur qui n'appelle pas, c'est ça, pour
non,
redorer. Mais tu fais bien le tableau pour nuancer.
Voilà. Non, mais je suis très, très optimiste. Même si les États-Unis nous volent une bonne partie de nos ingénieurs, on en a quand même de très bons et je pense qu'on a nos chances.
Dans les dessins animés notamment, les Français sont très très bons et il y a énormément de gens qui savent concevoir, donc c'est vrai sur l'informatique, les dessins animés et qui font des super productions, la Walt Disney et autres, et qui sont des ingénieurs français. C'est impressionnant.
Dans tout le domaine culturel.
Dans tout le domaine culturel, de manière générale. C'est là le côté yeux qui brille aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Là, la France reste quand même cette référence-là. Mais ils partent. Non, pas tous, on a dit. Soyons optimistes comme Marius.
Non, mais... Oui.
On passe au troisième tour. On va être un petit peu plus personnel, en quelque sorte. Juste un tout petit quiz, juste pour s'amuser deux secondes. Quelqu'un m'écrivait, on va deviner, vous allez deviner qui c'est. Évidemment, la personne, si elle se reconnaît, ne va pas dire qui elle est. Ceci, en début d'année, je leur avais demandé, j'avais demandé aux lycéennes et lycéens de se projeter dans 10 ans. C'était au tout début de l'année scolaire. Donc, il y en a une ou un qui est écrit dans 10 ans. Je serai en train de chercher un travail dans l'audiovisuel, ou je serai en train de faire des études dans je ne sais pas quel domaine, comme la psychologie ou autre, ce sont des métiers qui m'attirent. D'après vous, qui est ce mystérieux profil?
Si vous arrivez à lire, c'est que c'est pas moi.
Ou moi non plus. Et il s'est reconnu, c'est reconnu? D'après vous, c'est qui? Alors, ça pourrait être toi, si tu veux travailler dans l'audiovisuel aussi. Non, c'est Liam, c'est pas reconnu lui-même. Je fais le deuxième, en attendant qu'on prenne l'auditeur. Je serai loin d'ici, probablement au Canada. Bah, tiens, on parlait de l'étranger. J'aurai un chat du nom de Gargantua. Je serai réalisatrice. L'argent gagné sera donné à des gens qui en ont besoin. Je vivrai dans une cabane de pêcheurs avec un garçon, une fille, libanaise. Parce que la nourriture libanaise est juste parfaite. Alors, qui est-ce qui est fan du Liban ici? Vous l'avez reconnu. C'est Enola. Bon, voilà, donc toi, tu veux partir à l'étranger. Tu connais le Liban? Tu as déjà été?
Non.
Non. C'est une fascination pour ce pays-là et la nourriture en particulier.
C'est ça.
D'accord. Il y a des restaurants dans le Diwa libanais,
non,
où je sais qu'il y a plusieurs restaurants exotiques, on va dire, au sens large, mais Paris, c'est à Paris en l'occurrence. On a une auditrice, un auditeur?
Oui.
Très bien. Allô? Bonjour madame ou bonjour monsieur?
Bonjour à tous.
Bonjour monsieur, si j'entends bien, mais je l'entends. Vous vouliez intervenir, on vous écoute.
Oui, on dit parfois que les jeunes, on entend dire parfois que les jeunes s'intéressent peu ou pas au sujet d'actualité. Je trouve que les participants à cette émission nous démontrent le contraire par leur faculté d'analyse et leurs observations pertinentes.
Alors, ils sont avec le sourire en moment, vous ne les voyez pas, mais je peux vous dire qu'ils ont le sourire, ils sont ravis d'entendre ça.
C'est normal, ils font preuve, je trouve, beaucoup de maturité. Je voudrais savoir ce qu'en pense monsieur le principal adjoint.
Alors, monsieur Barrel.
Confiance dans les jeunes.
Ah bah, c'est ce que je disais un petit peu en début d'émission. Moi, j'ai toujours été confiant dans les jeunes qu'on nous confie. Je trouve qu'ils ont toujours eu cette dynamique et cette intelligence d'aller plus loin que ce qu'on a pu faire, nous, quand on était à leur âge. Donc, je suis très confiant pour l'avenir. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel au sein de nos lycées et de nos écoles.
Bon, donc un éditeur optimiste. Vous êtes optimiste vous-même. J'entends bien, monsieur Barrel aussi, c'est formidable. On a presque terminé sur une note optimiste. Vous avez une autre question à poser ? Pardon, on s'est un peu saturé.
Non, c'est simplement ce témoignage que je voulais porter. J'écoute régulièrement l'émission, je trouve qu'elle est très intéressante.
Eh bien, c'est très gentil à vous.
Une bonne année, de belles émissions encore dans le courant de l'année.
Bonne année à vous aussi, restez fidèles alors.
Bonne année.
Merci.
Vous n'êtes pas Frédéric, non ? Parce qu'on avait un Frédéric qui nous avait appelé, non.
Ah non.
Qui ne nous rappelle plus, qui nous a dit qu'il nous rappellerait, mais on attend désespérément. Donc c'est encore un autre auditeur, bah, formidable, on en prend chaque mois de nouveau. C'est génial. Bah, merci de votre appel.
Merci
beaucoup. Au revoir, bon courage à tous.
Merci.
Il y a un souci là, non ? Quand je parle, j'ai l'impression que je casse les oreilles. C'est qu'à moi ou c'est à tous ceux qui m'entendent ?
Non, ça va.
On va terminer sur une vie. J'ai déjà un peu commencé personnel. Merci à l'auditeur, c'est le cas, s'il doit avoir un souci, mais c'est pas grave, je vais faire ça. Comment vous voyez donc à la quarantaine ? Est-ce que vous voyez marié, paxé, un enfant, deux enfants, pas d'enfants, habitant à l'étranger, habitant en France ? Est-ce que vous voulez ? Vous ne signez rien aujourd'hui, on n'ira pas vérifier. Ah, vous nous enverrez une carte postale, j'espère, pour dire ce que vous êtes devenu, mais qui est-ce qui veut s'engager ? C'est peut-être la partie la plus importante de l'émission, en tout cas à titre personnel. Parce que c'est difficile de se projeter. Allez, Jérémy, on t'a pas beaucoup entendu. Comment tu te vois à la quarantaine ? Ça te paraît très, 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 très loin, totalement incongru, ma question, ou tu y réfléchis ? Il y aura peut-être pas la quarantaine, mais au moins dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que tu te vois quelque part avec quelqu'un ?
Non.
Tu te vois nulle part. Si, quelque part, forcément, quand même, Jérémy.
J'arrive pas à m'imaginer. Dans plusieurs années, je sais pas.
Ni professionnellement, ni plus personnellement, aucun des domaines.
Non.
Tu seras plus au lycée, Jérémy. Rassure-nous.
Non. Si, pourquoi pas.
On y est tellement bien au lycée du duo. Mais bon, quand même, à un moment donné, il faut s'arrêter. 40 ans, c'est trop âgé. On peut recommencer les études tout le temps, mais ça serait recommencer.
Bah, si on est prof.
Sauf si on est prof. C'est vrai que c'est le seul métier où, principal, on reste toute la vie. Je dis souvent dans le lieu où on a fait nos études. Pas forcément lui le précis, mais l'établissement. Oui.
En fait, j'ai vu quelque chose ce matin.
Je sens que Louise va dire une bêtise.
Non,
faites attention à vos oreilles, chers auditrices, on va l'écouter quand même.
Au niveau des profs, pour les salaires des profs, ils vont être augmentés de 77€ par mois. J'ai vu ça.
Écoute, tu en sais plus que moi, mais il y a eu dernièrement des annonces, oui, pour revaloriser les salaires.
Ouais, du coup,
c'est pas le 77€, peut-être, monsieur Barrel.
En fait, c'est un calcul moyen sur un salaire de base en comptant des heures supplémentaires que tous les collègues ne font pas.
Okay. D'accord.
Ça tient compte des heures supplémentaires. Oui, parce que c'est pas négligeable, 117€ aussi.
Oui.
C'était vraiment ça de manière. Bon.
117 ou 77 ?
77.
Ah oui, 7-7.
C'est quand même pas mal.
7-7. Oui, parce qu'en général, les revalorisations des retraites, semi-côte, c'est plutôt du 7,77€, comme tu dis. 77.
Oui, mais
c'était énorme.
C'était une valorisation de 5-6%, je crois, non ? C'est ce qui avait été annoncé.
Oui, puis il y a un plan qui a été annoncé par la ministre actuelle, un peu complexe sur les carrières aussi, qui devraient évoluer plus vite.
Oui, ça, c'est le point d'indice où j'ai pas.
Mais voilà, notamment par rapport aux échelons.
J'en sais rien, je dis ça. Alyosha, je sais pas ce que c'est.
Alyosha a 40 ans.
Écoutez, moi j'ai un projet pour mon avenir et je vais peut-être faire un petit peu vieux, mais moi je suis né à Die et j'aimerais rester à Die toute ma vie.
Ah bon, après l'étranger, on peut aussi vouloir rester à l'inverse, on est né, c'est pas interdit.
Moi j'aimerais bien rester ici toute ma vie parce que j'ai grandi ici, je connais beaucoup de monde et je suis habitué. Et même s'il y a d'autres régions dans le monde où je sais il y a des gens qui pourront m'apprécier, qui pourront apprécier mon travail ou un truc comme ça. Oui, non, mais voilà. Même des régions qui sont très belles à voir. Mais moi, j'aime le Diwa et voilà.
Et tu penses que trouver un travail, ça va être facile ? C'est pas méchant comme question.
Par contre,
les perspectives sont peut-être moins grandes que dans une grande ville.
Dans cette voie-là, je suis confiant.
C'est quoi la voie ? J'ai pas entendu si tu l'as dit.
Je voudrais être bibliothécaire, en fait.
D'accord. Oui, ça, voilà. Pourquoi pas dit, effectivement.
Voilà. Et même si, effectivement, j'ai entendu que mes titres bibliothécaires se meurent à cause de tous les e-books qui sont en train de faire exploser le marché ou un truc comme ça. Voilà.
Il y a peut-être quelque chose à faire en e-bibliothécaire.
Justement, ce sera un marché de niche, alors.
Oui, mais je suis très confiant et de toute façon, je reconnais plein d'avantages d'un vrai livre à un livre électronique.
C'est-à-dire à sentir le papier, la sensualité du papier entre les mains. C'est
ça,
vrai.
Non, mais c'est beaucoup mieux d'avoir une bibliothèque bien remplie que d'avoir un seul petit appareil plein de livres
dedans. C'est un objet plus sympathique à voir. Enfin voilà, c'est qu'un objet, comme tu dis, le comment ça s'appelle, la liseuse e-book, je sais pas comment ça s'appelle
je sais pas.
Une bibliothèque, c'est un objet qui fait partie du décor d'une maison.
Bien,
avec plein de livres à l'intérieur, c'est un bien, oui. Précieux. D'autres personnes, Enola ? Donc nous, on sait déjà tout, mais tu peux compléter.
Non, je viendrai dire bonjour à Alyosha quand je viendrai en vacances à Dijon.
D'accord. Donc toi, tu seras... Oui, Liban, du coup. Oui, ça va faire loin, Liban, dit.
Eh ben non, au Canada.
C'est au Canada pour manger Liban. C'est compliqué, Enola. Enfin, au Canada, tout existe.
Elle va chercher des livres de recettes à la bibliothèque.
Oui, d'ailleurs, le festival Est-Ouest qui s'était organisé cette année était sur le Liban.
Oui,
et moi, j'ai travaillé à la média cet été et j'ai été effectivement, j'ai participé à ce genre d'activité sur le
D'accord.
Liban. Donc,
Alexandre, voilà, on va discuter, là, notre ami technicien. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu auras 40 ans ? Pas 39, hein, pas 41, mais à 40 ans, tu seras où, avec qui ? On veut tout savoir.
Je sais pas, j'y réfléchis comme ça, mais sans trouver vraiment de réponse à mes questionnements, donc je sais pas tellement.
Et comme c'est super bien préparé comme mission, quand même, parce que normalement, ils connaissent le sujet à l'avance. Vous voyez, c'est bien, au moins, c'est spontané, nous sommes en direct, j'ai pas triché.
Chers auditeurs. J'en ai parlé avec d'autres, comme Baptiste qui a pas pu être présent, mais sinon, professionnellement, j'espère avoir un travail, je pense, comme tout le monde autour de la table. Hein.
Ça serait bien, oui.
C'est ça peut être utile, mais après.
Baptiste, il veut faire quoi, journaliste ?
Simple.
Les absents y ont toujours tort, on peut dire un mot quand même, oui, c'est ça, je crois.
Assistant parlementaire ou quelque chose comme ça.
Ah oui, faire Sciences Po. Sciences
Po,
éthique.
C'est ça.
Eliam, donc, technicien, c'est ça ? Dans le qu'est-ce que tu me disais ?
Audiovisuel.
L'audiovisuel, de manière générale ?
Vous avez lu ma fiche, moi, ce serait vraiment l'audiovisuel qui m'intéresse. Après, j'ai pas non plus de projet précis.
D'accord. Tiedel, président de la République.
Oula.
Tiedel,
non.
Président.
Pourquoi ? Il n'y a pas de...
Premier ministre, pas vraiment.
Non. Moi, j'aimerais travailler... Pour l'instant, j'aimerais travailler dans les relations internationales, mais ça peut changer. Et donc, je sais pas si... d'abord, je sais pas pour combien de temps, parce que moi, je vous l'avez compris, je n'hésiterai pas à me reconvertir, à faire autre chose, s'il y a autre chose qui m'intéresse. Et puis même, je vais peut-être changer d'avis d'ici, on ne s'en sait pas, la fin de l'année, la fin de mes études, enfin bref. Donc du coup, voilà. Par contre, je me vois pas... Alors du coup, bon, par conséquent, je me vois pas... forcément vivre à 10, pourquoi pas si un jour j'y suis amené, mais honnêtement j'ai pas de plan précis, c'est juste que je veux faire professionnellement, mais après bon bah comme j'ai dit ça peut changer, puis je peux me reconvertir, faire autre chose, voilà. Donc
on va pas demander à monsieur Barrel ce qu'il compte faire quand il aura 40 ans, même si l'on est très loin encore, il les a pas encore, mais est-ce que vous avez des questions à lui poser sur le métier, le job comme on dit de principal? C'est quelque chose qui vous paraît totalement mystérieux, ça, ou que vous envisagez absolument pas dans votre vie, travailler dans l'éducation nationale de manière générale, on va se faire mal, là, tous les deux, monsieur Barrel et moi, en fonction de la réponse. Professeur, enseignant, ou de l'autre côté, dans la direction, dans l'encadrement, CPE, oui, Alexandre ?
Quand lui, il avait notre âge, comment il voyait le monde ?
Tu peux lui parler directement, Alexandre.
Comment vous pensiez que le monde allait évoluer ? Est-ce que vous aviez, vous aussi, des projets personnels, privés, enfin tout ça, ou c'est venu... Vous avez cueilli les choses au fil du temps.
J'ai toujours voulu être dans l'éducation. Je voulais être enseignant dès le départ, très tôt. Peut-être parce que dans ma famille, j'avais quelques exemples, mais c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Donc, ma ligne était tracée, travailler dans l'éducation. Alors, au départ, je voulais vraiment enseigner. J'ai vraiment enseigné, finalement, pas toute ma carrière. J'ai fait pas mal de tâches administratives pour d'autres raisons. Voilà.
Et vous enseignez quoi ?
J'étais dans technique, bâtiment travaux publics en génie civil.
D'accord. Ah bah vous avez retrouvé le génie civil ici avec le BTS.
Oui, voilà, j'ai travaillé 6 ans dans un BTS études
d'économie
de la construction.
En plus, voilà. Vous connaissez bien le domaine. Oui.
Et du coup, par rapport à la deuxième partie de ma question, du coup, nous, notre monde, je pense qu'on a du mal à l'imaginer, tout change tellement vite que les progrès techniques, on ne sait pas comment ça va être. Est-ce que vous aviez une idée, ce que vous arriviez à imaginer?
Je pense qu'à notre époque, le monde évoluait beaucoup moins vite que ce qu'il évolue aujourd'hui. La technologie était beaucoup moins prégnante, surtout les technologies numériques. Non, je ne crois pas que je me posais tellement des questions par rapport à tout ça. Même par rapport à des préoccupations que vous avez plus aujourd'hui, sur l'écologie par exemple, c'était des choses qui nous effleuraient même pas, quoi. Non, on n'y pensait pas. Donc je trouve que vous avez pour ça, et c'est ce que je disais un petit peu, la confiance que j'ai, vous avez une maturité beaucoup plus grande que ce que j'ai pu avoir moi à votre âge.
D'accord, merci.
Que de compléments, ils vont partir en rougissant. Oui. Pas trop leur en faire, parce qu'on est qu'au mois de janvier quand même, l'année scolaire n'est pas finie. Enfin là c'était plus large, c'était sur les êtres humains que vous êtes. On finit peut-être avec Louise, je ne sais pas si on lui a demandé tout à l'heure, non, je sens qu'elle va être vexée autrement, donc ça, je ne veux pas l'oublier. Dites-moi si j'en ai oublié d'autres, hein. Non, je crois que les autres, Marius peut-être. Mais il ne veut pas s'exprimer. Nous allons respecter sa vie privée. Alors on termine avec Louise et puis on prend congé de nos auditeurs en leur rappelant que la prochaine, c'est alors tout pile le 1er février. Premier mercredi du mois, c'est le 1er février. Allez, Jérémy d'abord, parce qu'on ne l'a pas trop entendu. Et puis Louise, tu auras le mot de la fin, je sais que tu adores ça.
Alors pour vous, j'ai peut-être trouvé un projet qui n'est pas un projet en fait. Mais je pense que si à 30, 40 ans, j'ai par exemple... j'ai pas de travail ou enfin j'ai envie de faire autre chose et je pense que je partirai
au Canada manger libanais.
Ouais, c'est ça.
Bon, bah voilà, maintenant on saura qui est avec qui. C'était pour la version people.
Ah, peut-être aussi une ouverture du côté du retour à 10 pour voir Lyosha quand même.
Oui, quand même.
Il va falloir se mettre d'accord. D'accord, merci Jérémy, c'est bien, tu as pu réfléchir pendant.
Et au Quai d'Orsay pour aller voir
au Quai d'Orsay. Ah, il sera ministre des Affaires étrangères en fait. Bah, oui.
Et d'accord.
J'avais proposé au Premier ministre le président, mais c'est très bien aussi. C'est prestigieux, c'est régalien, ça s'appelle comme ça. Si, c'est ce que Thiedel, on le taquine parce qu'il est très. Si, c'est vrai, c'est pas un défaut. Oui, branché non, politique, on va dire.
Non, mais d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je me vois, alors, non pas ministre évidemment, mais pourquoi pas engagé
dans la politique,
en politique, dans un parti.
Bien sûr.
Ou pas dans un parti d'ailleurs, on verra comment les choses évolueront. Donc, mais
il faut savoir, monsieur
Barret, garder l'engagement que j'ai.
Thiedel s'était levé à quelle heure au moment des élections américaines et des résultats qui étaient en pleine
du coup, je m'étais pas couché. Donc...
Il nous avait dit oui, qu'il s'était pas couché, c'est ça, c'est même pire que ce que je pensais. Donc c'était le lendemain qu'on s'était en direct ici.
C'était à 2h du matin.
Mais il était cohérent quand même. Il avait vraiment suivi ça de très 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 près.
Ah bah oui.
Et donc tu es à fond là pour les primaires à gauche ou
pas forcément pour les primaires. Non mais bon, je vais pas vous forcément c'est pas très intéressant de connaître le détail de mon engagement.
Non mais juste que tu vas regarder ça.
Oui.
Et les autres, oui, non, bof. Vous êtes intéressé aux primaires droite. On avait déjà parlé un peu, mais
ouais, si. Tout. Politique. Pour moi,
vous avez regardé les trois débats des primaires. Je suis sceptique quand même. Peut-être que je suis l'avocat du diable.
De la gauche, hein. On va voir.
Oui, trois en tout. Il y en a deux pour les deux tours et un entre les deux tours, en fait. Il y en a trois, pour la droite. Allez, Louise, on te laisse. Tu veux dire un truc?
Non, j'allais dire une bêtise.
Alors non. Louise, le mot de la fin.
Moi, je me verrais bien faire de l'espagnol, parce que je suis passionnée par l'espagnol. Je suis partie un mois et demi l'an dernier en Espagne. Et du coup, j'adore ça. Je voudrais faire. Bah là, l'an prochain, je vais faire des études en licence d'espagnol. Et du coup, je sais pas trop pourquoi faire après. Ça ouvre des portes au niveau de la traduction, professeur aussi. Du coup, je sais pas encore. Je vais voir au fil du temps.
Travailler dans un pays hispanique ou pas forcément ? En France.
Je sais pas. Peut-être que.
Avec tes talents d'hispaniste.
Je pense que je voyagerai beaucoup dans les pays hispaniques d'Amérique du Sud et d'Espagne.
Donc, pas mal de voyageurs quand même.
Ouais.
Par expérience, beaucoup d'anciens élèves de DI qui ont aujourd'hui justement 20, 30, 40 maintenant quasiment. Ça fait quelques années que j'y suis. Et notamment pas que, mais les sports nature. Dans sport nature, il y a nature et qui aiment beaucoup la nature dans le monde entier. Ouais. Régulièrement, j'ai des nouvelles. Alors parfois, c'est chez les Incas, parfois c'est au Machu Picchu, parfois c'est aux États-Unis. C'est de grands voyageurs, ça doit être la même chose. Vous avez raison. Je m'en suis rendu compte. Je pensais que personne allait relever. Je vous remercie. Je cherchais un autre pays. Les États-Unis, la Grèce, enfin bref. Et qui vivent ou qui travaillent ou qui en tout cas voyagent parfois de longs mois pour faire des treks, puisqu'ils aiment bien ça. Et c'est bien ça, parce que le voyage, c'est forcément une ouverture d'esprit. Ben, sur cette belle parole.
En tout cas, ouais. Moi, je me verrais pas, en tout cas, vivre sans voyager, ça c'est sûr.
Au moins par loisir et par découverte.
Au moins par loisir, mais alors très régulièrement. Hein, parce que
d'accord. Sinon, il faut un peu d'argent,
sinon,
ça le problème.
Sinon, je tiens bien pas
oui,
en place.
Ouais, quand même.
Oui, bah voilà, oui, non, mais d'accord, mais ça, on trouvera une solution d'ici 40 ans.
Ah, bah, ministre des Affaires étrangères, ça va, tu gagneras pas trop mal ta vie.
Oui, mieux, mais, pire, oui, mais du coup, on n'a pas vraiment. Enfin, oui, du coup, on voyage de effectivement.
Et du coup, on voyage aussi, effectivement, accessoirement, ça fait même partie du métier.
Oui,
c'est bon. Monsieur Fabius qui disait que c'était particulièrement fatigant.
Oui,
parce
à mon avis, c'est infernal d'ailleurs.
Parce que c'était des jet lags, comme on dit, permanents, des décalages en permanence.
Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas forcément très intéressant parce qu'on reste deux jours. Bon,
oui, voilà, c'est un peu entre hôtels et conférences plutôt que vraiment visiter, ça c'est sûr. C'est pas forcément le but.
Après, ça peut faire des miles pour voyager plus tard.
Je sais pas s'il cumule les miles. On demandera à monsieur Fabius. C'est des points qu'on obtient par des réductions après. Chers auditrices, chers auditeurs, il est temps d'aller manger. Nous vous souhaitons bon appétit. Vous êtes peut-être déjà en train de manger, en train de nous écouter. On vous remercie de votre fidélité. On remercie l'auditeur de tout à l'heure. N'hésitez pas à faire comme lui, à suivre le chemin. Restez fidèles à l'écoute 207.5 depuis les studios de Radio Diwa. Nous sommes bien en direct. Il fait un ciel bleu étincelant. C'est pour vous le prouver. Et il est 13h10, très exactement. Rendez-vous donc le mercredi 1er février pour le CCC. C'est ça la classe numéro 41. Merci à toutes, merci à tous. Et encore une fois, bonne année à toutes les auditrices, auditeurs. Merci à monsieur Barrel d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un grand plaisir.
Merci à vous.
Merci pour ce dialogue avec ces jeunes gens. Et on se donne donc rendez-vous le 1er février. Au revoir à toutes, au revoir à tous.
Bonne
merci.
Année,
au revoir, bonne année. J'ai chaud.
Vous coupez vraiment tout cette fois-ci ? Parce que régulièrement, encore la dernière fois.